Volume présente Napoléon et l'amour de Octave Aubry, lu par Philippe Collier. Avant-propos. Napoléon a-t-il vraiment connu l'amour? Ceux qui feuilletteront ce petit livre ne pourront guère en douter. On va répétant que les chefs ne peuvent être sensibles. Je crois que s'ils n'étaient point sensibles, ils ne seraient point des chefs. Rien d'humain ne battait sous son épaisse armure, a écrit Lamartine. Eh bien, Lamartine s'est trompé. Les poètes se trompent parfois. Napoléon a été un grand soldat que l'ambition a entraîné pour son malheur à des défauts extrêmes. Il a été aussi, et là sa gloire n'a pas de tache, un administrateur, un légiste incomparable. Mais il n'a pas été que cela. Il a été un homme. Pareil à nous par ses faiblesses même, par ses erreurs de sentiment, ses illusions et ses chagrins. Et il a été amoureux. Il a vraiment, franchement aimé, à des degrés divers sans doute, avec les changements que nous imposent toujours le temps et les circonstances, avec les différences que son ascension inouïe, sa course dévorante, ont apportées dans sa faculté de sentir. Il a aimé d'abord en disciple de Rousseau, avec une naïveté, une exaltation, une mélancolie qu'il apparente dans certains moments à ses enfants de son siècle, Werther et René. Dans certaines occasions, il a aimé aussi avec hâte et même brutalité, parce qu'il est d'abord un soldat et qu'il croit toujours n'avoir pas de temps à perdre. Pour Joséphine, sa passion a été profonde. Elle garde après plus d'un siècle des accents qui déchirent. Il a aimé Madame Duchâtel avec des alternatives d'empressement et de froideur. Il a aimé Marie Walewska, en qui il a trouvé la pureté, la noblesse qui devait d'abord plaire à un Corse façonné à l'antique. Il a aimé enfin Marie-Louise, en mari, il est vrai, en chef de foyer, mais n'est-ce pas un des modes ordinaires de l'attachement humain? Ces liaisons fugitives ne sont rien, ni pour celles qu'il distingue, ni pour lui-même. Le temps, les mœurs, la cour étaient libres. Il a suivi leur pente. On peut les noter au passage, mais elles ne valent guère qu'on s'y arrête. Avec ses femmes d'une saison, il s'est montré souvent délicat et bon, toujours généreux. Certaines s'attachèrent fidèlement à lui. Nul, à vrai dire, n'a cherché à le rejoindre à Sainte-Hélène. L'Angleterre, sans doute, ne l'eût pas permis. Au reste, Napoléon n'y aurait point consenti. Il convenait à sa destinée de demeurer seul avec les compagnons que le hasard ou l'intérêt lui avaient donnés. Il lui convenait de souffrir sans qu'on vît sa misère. Cette admirable solitude a parfait et purifié sa gloire. Napoléon y a gagné de conquérir ces domaines de l'esprit qui se refusent au bonheur et dont, s'il eût gardé le trône, il n'aurait pas sans doute franchi le seuil. Chapitre 1. Idylle de jeunesse. En septembre 1785, arrive au régiment d'artillerie de la Fère, en garnison à Valence, un petit officier de 16 ans, très maigre, à grosse tête et peau olivâtre, qui garde une manière d'accent italien. Le lieutenant en second, Napoléone de Bonaparte. Quand il sera empereur, il se rappellera parfois, les yeux gais, la grosse turgotine jaune où, en quittant Paris, il était serré contre son ami des Mazis, puis le coche d'eau sur lequel ils ont descendu le Rhône. Dès l'arrivée, il se loge chez une vieille fille, Mademoiselle Bou, qui tient un café et loue des chambres. Pendant 3 mois, il est astreint, comme ses camarades, à passer par tous les échelons du service. Mêlé au rang, il est canonnier d'abord, puis caporal, enfin sergent. Il monte la garde et prend la semaine. Il s'initie ainsi à l'existence de la troupe. Règle heureuse, le lieutenant Bonaparte saura comment parler aux soldats français. Quand pour la première fois il endosse son uniforme, habit bleu à collet abattu, agrémenté et doublé de rouge, culotte bleue, simple épaulette losangée d'or et de soie, il se sent payé de ses années lentes et rudes.